C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Jeudi 8 septembre, bonne journée, bienvenue au 98.5. Encore une fois, le soleil sera dominant aujourd'hui avec un mercure qui devrait atteindre 27 degrés. Un petit peu de brouillard encore par endroits ce matin, mais rapidement ça disparaît. L'humidex autour de 32, demain vendredi, soleil 29 comme maximum. Et puis samedi, c'est le sommet, c'est-à-dire ensoleillé, 30 degrés, même dimanche ils vont faire beau. Encore là du soleil, maximum 29. En fait, il n'y a pas de pluie de prévu avant possiblement lundi soir et plus certainement à compter de mardi. Revenons sur cette tuerie en Saskatchewan. Finalement, le deuxième suspect a été arrêté par la police, mais le deuxième suspect est décédé. Je vous résume les derniers faits. Donc, Miles Sanderson est activement recherché depuis la fin de semaine. Et on sait que son frère a été retrouvé mort avec des blessures qui, selon les premiers constats, auraient été causées par une autre personne. Donc, c'est pas lui qui s'est infligé ces blessures. Il n'a pas glissé, il n'est pas tombé. C'est pas un suicide. Bref, il a été tué par quelqu'un. Est-ce que c'est son frère? On ne saura probablement jamais. Quoi qu'il en soit, Miles Sanderson a été vu hier dans la journée. C'est un citoyen qui a appelé les policiers. Et s'est engagé au milieu de l'après-midi, donc 3h30, une chasse à l'homme qui s'était amorcée, si on veut, dimanche. Mais là, c'était vraiment une poursuite quand on l'a aperçu. Ce qui fait que le gars en question s'est poussé, ça a roulé à haute vitesse. Et finalement, il a été intercepté par les policiers après cette poursuite. Donc, il y a plusieurs véhicules de police qui ont été impliqués. On a même eu des policiers qui ont roulé à 150 km/h. Et finalement, il avait volé, puisqu'on a découvert, un Chevrolet Avalanche. Et puis, il a été donc arrêté. Conduit au poste de police, et je rappelle qu'il n'était pas blessé au moment de l'arrestation, même s'il a perdu le contrôle de son véhicule. Il a éprouvé des malaises. D'après ce qu'on comprend, il s'est effondré. Les policiers sur place ont donné les premiers soins, ont fait venir l'ambulance. Transporté dans un hôpital, il est décédé. Décédé, la cause, aucune idée. Il y aura une autopsie. Il se plaignait de certaines douleurs. Alors, est-ce que c'est une crise cardiaque? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il avait consommé des drogues? Il n'y a pas d'explication pour le moment. La bonne nouvelle, c'est que les deux suspects sont neutralisés. Donc, les gens peuvent dormir un peu plus tranquille. Mais on ne saura probablement jamais quelles étaient ses motivations. Pourquoi, peut-être avec son frère, a-t-il pris un couteau et qu'il a décidé de tuer 10 personnes, blesser 18 autres personnes? Hier, on a rendu public l'identité des gens décédés. Et quand vous regardez les membres de la communauté CRI qui ont perdu la vie, c'est d'une tristesse, une grand-mère, vous avez un travailleur social, il y a un ado qui figure parmi la liste des gens qui ont été blessés. Alors voilà pour cette opération policière en Saskatchewan. Et vous dire, juste pour vous montrer que la violence n'a pas de frontières, Memphis, Tennessee, 4 personnes décédées, 3 autres qui ont été blessées. Et tout ça se passe alors que la police a capturé un jeune suspect de 19 ans qui aurait donc commis ses crimes. Alors encore une fois, pendant une partie de la soirée, on a dit aux citoyens, restez à l'intérieur, il y a quelqu'un qui se promène avec une arme à feu et qui tire sur les gens. Parlons de la campagne électorale. Ah, Seigneur. Je vous ai dit hier matin que je trouvais que le premier ministre Legault menait une drôle de campagne. Une pas très bonne campagne. Avec des propositions qui sont assombries par je sais pas si ce sont des gaffes. Tu sais, t'écoutes les propos, tu dis, est-ce que c'est ça qu'il pense? Est-ce qu'il l'exprime mal? Est-ce qu'il fait exprès? Est-ce qu'il veut réconforter sa base? Là, je ferai pas de procès d'intention. Mais, tu sais, prenons l'exemple. Quand il a parlé de madame, c'était pas sa meilleure. Après ça, dimanche, il braque Québec-Montréal concernant le fameux tunnel, le troisième lien. Et hier, alors qu'on est en débat sur l'immigration, Est-ce qu'on veut, comme le PQ, 35 000 immigrants par année? Est-ce qu'on va aller jusqu'à 80 000, comme le dit le Parti libéral? La CAQ est à 50 000. Monsieur Trudeau veut rentrer beaucoup d'immigrants. Et voici comment Monsieur Legault, vous l'avez sans doute entendu, là, mais on va le réentendre pour mettre ça dans le contexte.
Les Québécois sont pacifiques, hein? Ils n'aiment pas la chicane, ils n'aiment pas les extrémistes, ils n'aiment pas la violence. Donc, il faut s'assurer qu'on garde ça comme c'est là actuellement.
Le lien maladroit entre la violence et l'immigration a fait énormément réagir, c'est clair. Puis cette description de qui nous sommes, des gens pacifiques, des gens qui n'aiment pas la chicane, puis il faut s'assurer là que ça va demeurer comme ça, puis que les gens qui vont venir au Québec vont nous ressembler pour mieux se fondre dans la société. Parce qu'on veut pas d'extrémistes, pis on veut pas de violents. Je sais que il y a un courant qui existe, identitaire, qui associe l'immigration à la disparition là du Québec à court terme. On a le droit de débattre du nombre d'immigrants qu'on a la capacité d'accueillir chaque année. Tu sais, M. Legault, la dernière campagne électorale disait en accueillir moins, mais en accueillir, les accueillir mieux, en prendre soin. Ça, c'est une chose. Mais là, on va arrêter de faire l'amalgame violence-immigration. Alors, bref, il s'est excusé hier, il a dit « j'ai été mal compris », puis ben, hein, parfait. Mais on peut pas faire ce genre de lien-là. Et je sais que plus on habite loin des endroits, des villes comme Montréal, où il y a beaucoup d'immigrants, puis la périphérie, plus, pour bien des gens, l'immigration fait peur. Mais la grande majorité, la presque totalité des immigrants, quand ils décident de quitter leur pays, c'est parce qu'ils veulent souvent avoir une meilleure vie. Ils quittent un endroit où ils ont connu l'oppression. Puis je vais vous donner l'exemple de plusieurs auditeurs algériens qui nous écoutent parce qu'ils m'écrivent, parce qu'ils me parlent, qui ont fui le régime des barbus pour venir s'installer ici, fuir les islamistes, pour avoir une meilleure vie pour eux là, puis pour leur famille. Et ce sont des gens travaillants puis des gens qui veulent se bâtir une vie ici, puis qui pensent surtout à leurs enfants. Puis arrive la deuxième, puis parfois donc la troisième génération. Fait que c'est pas vrai là, qu'il y a un lien entre la violence puis l'immigration. Il y a souvent des liens entre la violence et la pauvreté. Quand vous regardez nos criminels qui sont chez les motards, souvent, ils viennent de familles canadiennes-françaises, comme on disait, de souche, et qui ont évolué dans des milieux dysfonctionnels, puis avec une criminalité latente, puis des gens pauvres. Alors, c'est pas la couleur de la peau, c'est pas parce que tu viens d'un autre pays que soudainement, tu aurais des idées de violence. Ben oui, ça se peut qu'il y en a qui se faufilent. Puis je le sais, ça arrive alors qu'on nous dit que Adil Sharkawi, le prédicateur, s'est trouvé un job d'enseignant dans une école. Là, tu te dis... Puis là, je sais, là, le cabinet de Robert, j'étais intervenu, puis il sera pas professeur. Puis là, il joue à victime en disant, on m'accuse de rien. Il veut se rappeler quand même qu'il y a des gens qui étaient dans son entourage, des jeunes qui sont partis faire le djihad ou qui ont essayé de partir dans certains cas. Et que les parents de ces jeunes disaient qu'ils étaient sous influence de M. Sharkawi, qui joue la carte de la victime parfaite. Je comprends, c'est un extrémiste. Puis on a-tu besoin d'un prédicateur, même si on manque de profs, dans une école? Pense pas. Le droit de gagner sa vie? Mais peut-être pas dans l'enseignement. Alors, oui, il y aura des gens extrêmes. Mais, je vous le dis, je croise tous les jours des immigrants. Puis ce matin, je vais ouvrir les lignes, en plus, pour les entendre. Ils n'ont pas quitté leur pays d'origine pour rien. Il y a une motivation. Souvent, ils étaient persécutés. Mais aussi, plusieurs. Je donne l'exemple d'un Français qui m'accroche l'autre jour sur la rue puis qui me dit... Je suis ici depuis 3 ans, je vous écoute, hein, etc. Il dit, j'ai trouvé ma voie au Québec. J'avais l'impression que mon horizon de travail était comme bouché en France. Alors, Legault, il l'a échappé. Puis, je vous le dis, je ferai pas de procès d'intention, mais Est-ce qu'il voulait rassurer ceux qui sont plus à droite, son électorat en région, en disant, je vous oublie pas, là, moi aussi, je me dis que l'immigration, il faut bien être prudent. C'est pas habile, c'est pas habile. Puis ça polarise pour rien le débat. Puis surtout, savez-vous quoi? C'est Québec solidaire hier qui est en train de l'échapper solide. On comprend que les théoriciens avaient évalué que quiconque a 1 million en actifs est un riche. Là, avec toute la le côté péjoratif qu'on peut mettre là-dedans. Puis là, plus la discussion avance, plus tu découvres quoi? Qu'il y a des gens retraités qui ont un patrimoine qui peut tourner autour de 1 million, 1 200 000, mais qui ont des petits revenus, sur lesquels ils sont déjà taxés. Et les gros sabots de Québec solidaire débarquent là-dedans, puis disent, on va venir t'en pomper encore plus. C'est sûr, la démagogie aide dans ce cas-là. 1 million, t'es riche, et quoi, 1 000 piastres? Wow, c'est pas si simple que ça. Combien de gens retraités sont propriétaires d'une maison qui vaut des centaines de milliers de dollars, une maison où les taxes sont élevées, où le compte d'électricité est élevé? Bref, ils ont des revenus qui ont été frappés récemment. Ils sont pas riches, ils ont juste une grosse maison qui a pris de la valeur. Puis là, Gabriel Nadeau-Dubois, il va venir nous dire, voici les vilains riches. Je comprends, puis je parlais hier avec un de leurs candidats économistes, la rhétorique, tout ça, c'est bien beau dans un livre. Mais hier, c'était en train de dégonfler, puis ils se sont aperçus aussi que les terres agricoles, fallait pas toucher à ça, puis commencer à écœurer les producteurs agricoles. Alors, ils faisaient quoi? Gabriel Nadeau-Dubois, il reculait hier, OK? Puis, tu dis là, c'est Québec solidaire qui est dans les câbles. Puis là, arrive François Legault, puis bang, encore une fois, l'échappe. Puis il est obligé de rattraper durant la journée. Alors, c'est pas, vous dirais, la déclaration. Et surtout, ça donne un mauvais ton. Et ce contexte de division, là, Québec-Montréal, tu sais, on a le droit d'avoir un point de vue sur le troisième lien. C'est pas vrai que tout le monde à Québec pense la même chose, d'abord, là. Puis là, c'est rendu que GNL, on n'aurait pas un mot à dire parce qu'on est de Montréal. Ça vous regarde pas. Donc, il cautionne cette espèce de polarisation-là. Puis là, il crée de la méfiance, de la suspicion autour des immigrants. Puis j'aimerais ça que des immigrants ce matin, qui ont le temps, là, qui sont pas pressés, là, m'envoient un petit courriel puis qui me racontent leur parcours. Je vais ouvrir les lignes un peu plus tard, puis on va pouvoir s'en parler. Alors, bilan en fin de journée, M. Legault qui a présenté ses excuses. Très bien. Un petit mot aussi sur la campagne électorale. Le Journal de Montréal qui nous apprend ce matin qu'il y a déjà eu 15 arrestations après 12 jours de campagne d'individus qui se faisaient menaçants, même pas subtil, là, sur les réseaux sociaux. Donc, 15 personnes qui ciblaient des politiciens ou encore des gens qui ont commis des méfaits. Vous avez évidemment celui qui a harcelé Marois Risky, qui a été arrêté. Un autre qui s'appelle Grégory Larivière-Finlay de La Prairie, qui a été accusé de menaces envers le Parlement. Le cas de Jimmy Broder de Donnacona, un homme de 41 ans qui aurait fait des menaces de mort à l'endroit de M. Legault, puis à l'endroit du directeur de la santé publique, Luc Boileau. Vous pouvez ajouter la sénatrice autochtone, Michèle Audette, qui a été menacée par un gars qui s'appelle Carl Moret de Sherbrooke. Puis la liste est longue, là. Puis il y a également le 30 août, Martin Dumont qui aurait réussi à pénétrer dans les bureaux d'Enrico Ciccone, qui aurait donc volé des ordinateurs puis qui aurait fait du saccage. Alors, vous avez ces manifestations de violence qui, et ça n'a pas pour autant diminué, mais la Sûreté du Québec, surtout en période électorale, disons, prend ça au sérieux. Dans les autres nouvelles ce matin, rapidement, je veux vous parler de la STM. Puis je prends un exemple. C'est un auditeur qui m'écrit, je vous résume ça. Sa conjointe et lui décident de stationner au métro Montmorency à Laval. Lundi, fête du travail, ils prennent le métro pour aller passer la journée dans le Vieux-Montréal, puis prendre un repas, puis retourner après. Puis là, ils se sont dit, peut-être qu'on va aller au casino. Et puis en plus, il dit, je dois reprendre le métro à la fin du mois. Il a acheté une carte, zone AB, avec 10 passages pour 45 $. Jusque-là, pas de problème. Alors, sa conjointe prend la carte, passe la carte, ça fonctionne très bien. Elle lui donne la carte en disant, prends ton passage, oups, marche pas. Tu dis, ben, pourquoi? Et là, il se fait répondre que c'est pour une personne seulement puis qu'il doit acheter une deuxième carte. On a vérifié avec la STM et c'est le cas. Le métro de New York, je l'ai pris le métro de New York au printemps, puis on achetait une carte avec tant de passages. Puis ma femme passait, me donnait la carte, je passais, puis ça allait très bien. Pas besoin d'acheter deux cartes. On n'a pas besoin de deux cartes. Alors, pourquoi la STM, qui toujours avec ses clichés puis ses phrases de « on est en mode solution » puis « on est en... » Tu sais, l'expérience client, là, c'est pas une bonne expérience client. Puis là, on nous vend le transport en commun. Moi, je veux bien, là. Puis j'ajouterai autre chose tantôt. Mais ça a l'air que c'est tellement compliqué. Les tarifs, c'est tellement compliqué. Ça a toujours été compliqué. Il n'y a rien de simple. Alors, ça serait bien que ça soit convivial quand des gens qui prennent peu le métro puissent utiliser une même carte. Puis là, on nous explique la technologie. Je vous le dis, là, je veux même pas vous lire les détails. Je me dis juste qu'une ville comme New York est capable de le faire. Pourquoi Montréal n'est pas capable de le faire? Puis j'ai pas de réponse intelligente à vous donner. Il y a également dans la presse ce matin de la cyberattaque qui a été menée contre le collège Montmorency. Et des informations se sont retrouvées sur le dark web, des informations, disons, confidentielles sur les membres du personnel, sur les étudiants, problèmes psychiatriques d'employés, des enquêtes disciplinaires, des cas de plagiat, d'inconduite sexuelle. Ça s'est passé au mois de mai. Puis les gens sont pas trop jasants quand ils sont victimes de ça. D'ailleurs, quelqu'un qui m'a écrit à propos d'une attaque contre un joueur important des médias, je peux pas vérifier l'information, mais encore là, ce sont des données personnelles de clients qui ont été, semble-t-il, piratées. Alors, malheureusement, pas de détails à vous donner. Et puis, je vous parlerai également du Publisac, parce que c'est clair que Transcontinental a décidé de contourner la réglementation de la ville de Montréal, se tourne vers Post Canada pour la distribution. C'est le cas déjà à Mirabel. Et Post Canada dit, ben, c'est un client. Puis nous autres, les règlements de Montréal, on n'a pas à être préoccupés par ça. Et je sais que la Ville a demandé hier à Post Canada de pas le faire. Rappelons rapidement quelle est la formule. Actuellement, on vous distribue le Publisac à toutes les portes, à moins que vous ayez indiqué votre intention, votre volonté de ne pas le recevoir. Là, la Ville change en disant, là, c'est le contraire. Si tu veux le Publisac, il faut que tu le dises. Et là, Transcontinental sait très bien que c'est moins payant, cette formule-là. Alors, on va passer par Post Canada. Je vais vous en reparler un peu plus tard ce matin. Puis rapidement, je recevrai, autour de 8 heures, le juge en chef de la Cour suprême du Canada, qui sera avec nous. Il est au Québec parce qu'il y a une tournée des décisions de la Cour qui seront entendues quand même. Et c'est pas banal, là, qui vont être à Québec 2 jours où la Cour va siéger. Alors, le juge Richard Wagner sera avec nous.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
On parle beaucoup de justice, d'accès à la justice, de proximité avec la justice. Et la Cour suprême du Canada va visiter la ville de Québec la semaine prochaine. On va y entendre 2 appels venant du Québec. Et le juge en chef de la Cour suprême du Canada est avec nous, Richard Wagner. Monsieur Wagner, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, c'est pas très souvent que la Cour suprême va siéger ailleurs. Pourquoi vous le faites et pourquoi vous allez à Québec?
Alors, c'est la 2e fois de son histoire que la Cour suprême du Canada va siéger à l'extérieur de son chef-lieu, là, Ottawa. La première fois, c'était en 2019, juste avant la pandémie. On a siégé à Winnipeg. On a entendu 2 causes là-bas aussi. On a passé la semaine là-bas, les 9 juges. Et on a repris l'expérience. On veut reprendre l'expérience aussi à Québec maintenant. Et donc, on commence lundi. Et donc, ça fait partie de la philosophie en vertu de laquelle moi et mes collègues, on veut faire connaître mieux le système de justice, la Cour suprême, évidemment, ses travaux, qui sont les juges, comment on travaille, pourquoi on travaille, et donc informer les gens qui n'ont pas tous la chance, évidemment, d'aller à Ottawa pour assister à une audition à la Cour suprême, de mieux comprendre le système, de mieux comprendre nos décisions. Ça s'inscrit dans cette volonté d'accès à la justice. Dans la mesure où l'accès à la justice, c'est pas simplement d'aller devant la cour, les délais, les coûts, etc., mais c'est également l'accès à l'information. Mais il faut donner les gens l'information sur le système de justice.
Je lisais hier des commentaires, là, c'est repris ce matin par le quotidien, qu'il y a une espèce de constat qu'il y a un fossé entre le système de justice général et la population. Beaucoup de juristes pensent ça, puis beaucoup de juges pensent ça également, quand ils voient des commentaires des citoyens sur des jugements qui sont rendus sur, je dirais même, sur une certaine pression qui est exercée sur les juges.
Oui, c'est pour ça que c'est une priorité pour moi puis mes collègues de faire ce qu'on peut pour justement informer les gens. Il y a un appétit pour ça. Vous savez, à Winnipeg, en 2019, les gens étaient en ligne sur le trottoir à 6h30 le matin pour avoir une chance d'entrer dans la salle d'audience. Mais il y a plus que simplement d'entendre les causes, là. Par exemple, à Québec, on va rencontrer la population au Musée de la civilisation, on va rencontrer les étudiants, on va rencontrer dans neuf écoles secondaires. Les neuf juges vont être dans neuf écoles séparées pour rencontrer les jeunes, les étudiants, qui vont leur poser des questions sur le système de justice, sur les juges, sur le travail, etc. Alors, ça fait partie de cette volonté. Je pense que c'est utile. De permettre aux gens d'en savoir plus sur le système de justice, de telle sorte qu'ils puissent maintenir la confiance, leur confiance dans le système.
Je vous donne des exemples, pas des causes, là, mais des questions qui sont soulevées par les auditeurs très souvent. D'abord, quand on parle d'accès, il y a le coût. Beaucoup de gens qui vous écoutent ce matin se disent « j'ai pas les moyens d'aller devant le tribunal, je voudrais bien, là, mais la justice est réservée soit aux gens qui répondent aux critères de l'aide juridique ou encore aux gens qui ont les moyens de se payer des avocats. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Il n'y a pas de remède unique au problème. C'est un problème qui a existé depuis maintenant plusieurs années. Moi, j'ai toujours dit que le système de justice au Québec, au Canada et dans tous les pays où la règle de droit prévaut, là, les démocraties, le système de justice n'a pas été suffisamment financé. Parce qu'on a mis l'argent, puis à bon droit, là, on a mis l'argent dans le système de santé, dans l'éducation. Et ça, ça a causé beaucoup de dommages à moyen et long terme. Notamment, manque de salles d'audience, manque de personnel. Personnel sous-payé, encore aujourd'hui. Vous savez, encore aujourd'hui, il y a des causes au Québec qui sont reportées parce qu'il n'y a pas de greffier dans la salle de cours. Écoutez, on peut pas accepter ça. Alors donc,
mais ça, juste que les gens comprennent l'effet que la cause soit reportée, le fait que par exemple ça s'étire. On connaît tous l'arrêt Jordan, oui. on a appris l'expression là. Ça veut dire que ces retards dans le système peuvent faire en sorte que des accusations tombent contre des individus.
Oui, puis une accusation qui tombe, c'est une accusation qui tombe de trop. Ça devrait pas exister. Et mais on a une obligation, je pense, de tous les acteurs dans le domaine, les politiques, les élus, les juges, les avocats, les barreaux, les médias jusqu'à un certain point aussi, on a tous une responsabilité pour travailler pour faciliter l'accès à la justice, que ce soit par l'information ou que ce soit par l'accès physique au cours de justice. Et donc, il n'y a pas de solution unique. Ça prend plusieurs remèdes afin de faciliter effectivement l'accès, puis qu'on évite des arrêts de procédure, puis qu'on évite des délais épouvantables et des coûts pour les gens qui n'en ont pas les moyens. Alors, je pense que ça prend la participation de tous les acteurs du milieu.
Autre remarque.
On va y arriver.
Oui, autre remarque que j'entends souvent. On a vu, par exemple, dans les cas de crimes où les enfants sont victimes, des sentences plus sévères. Il y a comme une espèce de tendance dans les jugements récemment qui ont été rendus où on considère que c'est plus grave encore qu'un enfant est impliqué. À Montréal, on a des coups de feu partout. Il y a des fusillades toutes les semaines. Il y a des gens qui ont été arrêtés, par exemple, pour trafic d'armes à feu, qui ont fait même pas un an de prison. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des peines minimales quand on a des cas plus graves que ça qui concernent, disons, la sécurité publique?
Bon, la question des peines, évidemment, ça revient au législateur, au Parlement, oui, de décider ça.
Mais est-ce que constitutionnellement, c'est légal de dire pour tel type de crime, exemple importation d'armes à feu, c'est minimum 5 ans de prison. Est-ce qu'on a le droit de faire ça?
Bon, ça, c'est une question qui va probablement venir devant nous. Et donc, j'aimerais ça participer au débat. Et donc, vous allez comprendre.
Oui,
que
oui, je comprendrai la réserve.
Tout à fait. Mais vous référez tantôt aux agressions sexuelles sur les enfants. Les peines pour de telles accusations maintenant sont augmentées. Les peines sont augmentées. Pourquoi? Parce que la Cour suprême, dans l'arrêt Friesen, et j'ai écrit cet arrêt-là, avec le juge Rowe, on a réalisé, selon la preuve qu'on avait, que les crimes contre les enfants, les jeunes, avaient des conséquences, selon la preuve scientifique qui était déposée, énormes pendant toute leur vie. Et que les peines qui étaient données, les fourchettes de peines qui étaient données par les tribunaux jusqu'à ce moment-là, n'étaient pas suffisantes pour compenser effectivement l'effet dévastateur de ces agressions-là. Et depuis ce temps-là, tous les tribunaux au Canada respectent notre décision, évidemment, d'en freezing, et les peines ont augmenté. Et ça, sans qu'il y ait nécessairement d'amendement législatif à la loi. Simplement en utilisant leur discrétion, les juges, en utilisant leur discrétion, peuvent effectivement augmenter la fourchette de peine pour de tels crimes.
Je vous pose une question qui va vous sembler étrange, mais je vous jure que je l'entends très souvent. Jusqu'à quel point, pas sur l'évaluation des faits et la décision, mais jusqu'à quel point l'opinion publique, les commentaires, les analyses influencent, par exemple, une sentence, influencent tout simplement un juge dans l'exercice de ses fonctions?
Ben, les juges ne sont pas, on travaille pas dans les tours d'ivoire, là, on est des citoyens, et puis on lit les nouvelles, puis on regarde les journaux, puis on écoute la radio, puis mais je pense qu'on a au Québec, au Canada, une magistrature professionnelle, indépendante. Vous savez, je dis souvent que le Québec, le Canada, c'est pas une puissance militaire, c'est pas une puissance économique, mais jusqu'à un certain point, c'est une puissance au niveau de l'état de droit, de la règle de droit et de l'indépendance judiciaire. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les juges québécois et canadiens donnent la formation aux juges étrangers. Vous savez, on était en Ukraine jusqu'à 6 mois avant le début de la guerre, pendant 10 ans de temps. On a formé les juges là-bas. On l'a fait dans d'autres pays également. Donc, je vous dis ça parce que, même si nous ne sommes évidemment pas à l'abri, et je pense que c'est bon qu'on soit au courant de ce qui se passe autour de nous, on a quand même une magistrature professionnelle qui va juger les dossiers selon la preuve, en toute indépendance et impartialité.
Mais en même temps, on voit une Cour suprême, c'est un autre régime, là, aux États-Unis, où on nomme des juges selon leur couleur politique, et on voit des jugements qui, et on a vu la cause sur le dossier de l'avortement, où, dans le fond, le politique joue avec la carte de la Cour suprême pour atteindre ses objectifs.
J'espère qu'on n'arrivera jamais là. Et je pense pas qu'on va y arriver non plus. Je pense qu'on parle de deux société complètement différente au niveau de la magistrature. Et nous, le processus de sélection des juges est indépendant par des comités indépendants. On a une très belle impartialité, indépendance. Et je pense que c'est de nature, effectivement, à rassurer la population. Parce que vous avez raison, quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, puis je veux pas nécessairement cibler ici là, un pays en particulier, je pense que dans ces pays-là, les gens auraient raison de douter de la crédibilité des décisions de ces tribunaux-là.
Parce que, par exemple, je veux pas me mettre dans l'embarras, mais comment la Cour suprême sur une question fondamentale comme celle de l'avortement peut prendre une direction si opposée à des décisions rendues antérieurement?
Ouais.
Si la base, c'est le droit. On peut se poser la question.
Oui, on va leur laisser répondre à cette question-là. Nous, au Canada, on a un autre régime.
Donc, vous serez à Québec la semaine prochaine, puis la Cour réalise l'importance d'établir le contact et le dialogue avec les citoyens pour qu'on mesure mieux les enjeux de justice.
On va faire notre effort, notre contribution.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir, bonne journée.
Fin de journée.
Très honorable Richard Wagner, qui est le juge en chef de la Cour suprême du Canada. Alors, évidemment, c'est devenu le sujet numéro un hier, les propos du premier ministre Legault sur l'immigration. Et d'ailleurs, on va les entendre. Et je précise tout de suite que M. Legault, plus tard en journée, a dit regretter ce qu'il avait dit, que l'amalgame, c'est pas ce qu'il voulait faire, mais plusieurs ont été choqués. Voici donc ses propos.
Les Québécois sont pacifiques, hein? Ils aiment pas la chicane, ils aiment pas les extrémistes, ils aiment pas la violence. Donc, il faut s'assurer qu'on garde ça comme c'est là actuellement.
Bon, alors, vous comprenez, on est pacifique, on n'aime pas la chicane, on n'aime pas la violence, donc il faut être prudent avec l'immigration. C'est un peu ce qu'il disait. Que M. Legault questionne le nombre d'immigrants que le Québec accueille chaque année, c'est une chose. Puis on le voit en campagne, le PQ est à 35 000, la CAQ 50 000, les libéraux parlent d'aller jusqu'à 80 000. Le premier ministre Trudeau veut aller encore plus loin. On est dans une société où il y a un vieillissement de la population, il y a une baisse du nombre d'enfants, et l'immigration représente une clé. Donc c'est un débat qui est légitime, quelle est la capacité d'accueil. Mais quand on associe immigration et violence, c'est d'oublier tous ces gens qui viennent des quatre coins du monde pour trouver un avenir meilleur pour eux et pour leurs enfants. Depuis ce matin, je reçois des témoignages de gens qui sont arrivés d'Algérie, des gens qui sont arrivés du Liban. Comme me disait un auditeur, mes parents ont quitté un pays en guerre pour venir s'établir ici. Je suis pas quelqu'un de violent. Ce ne sont pas des gens violents. Tout ce qu'on souhaite, c'est un environnement qui va nous permettre de nous épanouir. Et plusieurs, puis je dis pas ça pour provoquer des gens, là, mais se sentent aussi secoués qu'au lendemain des propos de Jacques Parizeau sur le vote, l'argent, puis le vote ethnique. Et on sait que ça a suivi M. Parizeau longtemps. Je vais en discuter ce matin avec Marjorie Villefranche, qui est la directrice générale de la Maison d'Haïti. Madame Villefranche, bonjour.
Bonjour, monsieur. Comment allez-vous?
Bien. Dites-moi, comment vous avez reçu, vous, les propos de M. Legault hier?
C'est-à-dire, en fait, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée parce qu'on est en campagne électorale. On essaie de trouver des phrases qui vont aller chercher des votants. Mais je pense que là, il s'est trompé. Il s'est trompé parce que c'est pas quelque chose qui, à mon avis, va aller lui donner des personnes qui vont voter pour plus que lui. Ce qui fait de la peine, en fait, c'est dommage pour la bonne raison que ne pas aimer la chicane, ne pas aimer la violence, c'est pas des valeurs québécoises, c'est des valeurs universelles. Tout humain n'aime pas la chicane, n'aime pas la violence, veut être en sécurité et veut la paix. Donc je pense que c'est pas... Là, il a parlé de valeurs universelles que tout le monde recherche à travers le monde entier. Je pense pas que ça soit vraiment pertinent d'avoir dit des choses pareilles. Et je pense, en fait, la réponse que j'ai eu envie de lui donner, c'était de lui citer des centaines et des milliers de noms de personnes d'origine immigrante qui sont arrivées ici depuis les trois derniers siècles et avec tout ce qu'ils ont fait pour construire le Québec et lui dire c'est quoi les valeurs qu'il prône, parce que tout le monde apprenait ces valeurs-là et tout le monde veut ça.
Il a dit, en présentant ses excuses sur Twitter, puis je dirais dans son environnement politique, ce qu'il voulait dire, c'est, on prend l'exemple de la France, quand l'immigration atteint des niveaux trop élevés, quand l'immigration, par exemple, se retrouve concentrée dans certains quartiers, on peut penser en banlieue de Paris, c'est propice à la violence. Bref, qu'une immigration mal contrôlée peut amener des réactions agressives. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Moi, je pense que c'est pas seulement l'immigration qui peut faire ça. Ça, c'est un des exemples, mais il y a beaucoup d'autres causes qui peut apporter la violence, etc., etc. Je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment mal connaître la société que de dire que c'est l'immigration qui peut causer des choses pareilles. Il y a l'immigration, mais il y a aussi la pauvreté, il y a aussi l'exclusion. Il y a plein de choses. C'est pas seulement l'immigration en tant que telle.
Mais c'est pas
ça. La manière dont nous on reçoit, la manière dont nous on traite les personnes plus pauvres que nous, qu'on traite les exclus de la société. Mais vous savez, ça c'est beaucoup plus important.
Oui, ben c'est ce que je voulais dire. Là. Vous soulevez le point majeur. Quand on se retrouve avec des personnes qui sont exclues de la société, des personnes qui automatiquement se retrouvent dans des situations de pauvreté, c'est plus des facteurs qui peuvent conduire à une certaine forme de violence que l'immigration pris isolément. Là.
En tant que tel, bien sûr, parce que bon, les gens, des personnes pauvres, il y en a qui sont québécois d'origine, il y en a qui sont d'autres origines, je veux dire, et des personnes éduquées aussi, et des personnes riches aussi. Donc, c'est ridicule de pointer du doigt le fait que ce soit des immigrants. Moi, je pense que simplement, quel est notre avenir? Qu'est-ce qu'on veut comme Québec? Parce que là, on est en train de perdre notre poids démographique. Est-ce qu'on veut avoir un poids démographique? Est-ce qu'on veut avoir de la population dans le pays? Est-ce qu'on veut avoir des gens qui travaillent? Est-ce qu'on veut avoir... Qu'est-ce que voulons-nous? Moi, je pense que c'est ça la question fondamentale. Que voulons-nous? C'est pas notre capacité d'accueil. Notre capacité d'accueil, on a notre capacité d'accueil. C'est pas ça le problème. Moi, je pense que le problème, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut comme pays? Est-ce qu'on veut rester un tout petit pays? Est-ce qu'on veut être un plus grand pays? Est-ce qu'on veut avoir des personnes qui travaillent dans ce pays-là? Est-ce qu'on veut avoir des gens qui contribuent?
J'aimerais vous entendre spécifiquement sur la communauté haïtienne, si vous me permettez, parce que c'est une communauté importante à Montréal. Deuxièmement, j'en croise pratiquement tous les jours qui, je dirais, bûchent pour gagner leur vie, qui occupent des emplois qui sont pas nécessairement toujours très payants. Et je retiens une phrase d'un monsieur que j'ai croisé à la place Bonaventure, là, qui travaille pour une agence de sécurité, qui dit « J'aurai jamais un salaire extraordinaire, mais je travaille comme un damné pour ma famille, pour payer des études, pour leur offrir quelque chose de meilleur. » Et j'ai trouvé que c'était tellement révélateur de l'immigrant de première génération et l'immigrant de deuxième génération.
L'immigrant de première génération, bien sûr, sait qu'il doit faire des sacrifices supplémentaires. L'immigrant de la deuxième génération, il n'est plus un immigrant, pour la bonne raison qu'il est né ici, donc il n'y a pas de...
Non, mais il est fils d'immigrant, c'est ce que je veux dire, oui.
Exactement, fils d'immigrant. Donc, on sait très bien les sacrifices que nos parents ont fait pour nous. Mais je pense que ça soit... Vous savez, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à la communauté haïtienne, voilà une communauté francophone, on parle français. Voilà une communauté francophone dont le nombre qui arrive au pays n'a pas arrêté de diminuer. OK? Dans les années jusqu'à la fin des années 70-80, on était le numéro un en termes de d'immigration ici au pays. Et maintenant, je pense qu'on est rendu au 12e rang. Pourquoi? On cherche des francophones, etc., etc. Ça, ce sont des questions qu'on se pose, hein.
Vous faites très bien de les soulever. Merci d'avoir été avec nous.
D'accord, merci beaucoup.
Au revoir,
beaucoup.
Bonne journée. Marjorie Villefranche est la directrice générale de la Maison d'Haïti. Juste avant d'aller retrouver Marc, il semble que l'état de santé de la reine Élisabeth préoccupe grandement ses médecins. On apprend ce matin les différents fils de presse qu'elle est actuellement sous supervision médicale au palais de Buckingham, et que les médecins, je reprends l'expression, se disent préoccupés par son état de santé. Alors, donc, sous surveillance médicale.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Faudrait que tu fasses attention. Il va peut-être t'arriver quelque chose.
Insultes, menaces de mort et menaces de viol.
C'est un extrait du film « Je vous salue, salope », la misogynie au temps du numérique qui prend l'affiche demain. C'est en salle partout au Québec. Les deux réalisatrices du film sont avec nous. Léa Clermont-Dion, bonjour.
Bonjour.
Et Guylaine Marois, bonjour.
Bonjour.
Je dirais que ce film arrive d'ailleurs, quand on cherche le timing avec l'actualité, c'est assez difficile de faire mieux, là, avec les propos de Marois Risky, les autres parlementaires également, sur la violence verbale. Dans le cas de Marois Risky, c'est plus que de la violence verbale, là, c'est carrément des menaces de mort. J'ai vu la bande-annonce du film. Vous êtes allé à Rome, témoignage du Vermont. C'est partout pareil. Il n'y a pas de différence majeure, en tout cas, de ce que je comprends.
Non, en fait, c'est ce qu'on voulait montrer, justement. T'sais, on s'est dit, puisque c'est un phénomène qui est répandu partout dans le monde, en Occident, il y a plus de femmes, évidemment, qui sont sur la place publique, des femmes politiciennes. Alors, ça touche toutes les femmes qui ont une parole publique.
Et je pense aussi, Guylaine et moi, on avait l'intention de faire un film qui choque, en quelque sorte, parce que c'était... très banalisé les cyberviolences quand on a commencé le processus il y a 7 ans. Et c'était fondamental pour nous d'aller chercher des femmes qui ont une voix qui porte. Par exemple, Marion Séclin, qui est une YouTubeuse féministe française, elle a eu le malheur, entre guillemets, de faire une vidéo sur le harcèlement de rue vécu par les femmes. Et pour ça, elle a payé le prix très cher. Elle a reçu 40 000 menaces de mort, de viol, d'insultes sexistes. Et Marion a le courage de témoigner dans le film. Il y a aussi Laura Boldrini, qui est une ex-parlementaire italienne. En fait, c'est l'ex-présidente du Parlement italien. Et elle, ses agresseurs, ses cyberagresseurs, c'était pas Joe Blow dans son sous-sol. C'était l'ancien ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. C'est un maire qui dit à ses supporters, allez violer Laura. C'était donc des élus. Et ça, c'est troublant. On a aussi Laurence Graton, qui est une enseignante, qui a été cyberharcelée par un individu, puis on se rend compte, elle était enseignante, en fait. Elle est enseignante au primaire. Puis on se rend compte dans le film, finalement, qu'il y a une dizaine de victimes que le gars a fait. Donc, c'est tentaculaire, là, la haine des femmes en ligne.
Mais là, vous me corrigerez. Au Québec, c'est plutôt rare que quelqu'un de connu comme un politicien va diriger clairement, sciemment...
Ça serait inacceptable.
Ça serait tout de suite dénoncé.
Oui.
Je pourrais pas voir ce que vous venez de décrire, par exemple, avec l'Italie. Mais il y a deux ou trois questions qui viennent naturellement. La première, que des personnalités publiques, peu importe le domaine, soient ciblées par des intimidateurs du web, c'est une chose. Mais dans le cas des femmes, le constat qui revient, c'est qu'au-delà de l'attaque sur le propos ou la prise de position, ça devient des attaques misogynes, ça devient des attaques contre le physique des femmes, c'est un appel au viol. Pourquoi ça dérape encore plus loin quand il s'agit de femmes?
Ben, c'est la misogynie, hein. Je veux dire, c'est profond. Je pense que le but, c'est de faire taire les femmes, mais c'est cette profonde misogynie qu'on pensait peut-être terminée, mais Donna Zuckerberg, donc on a la sœur de Mark Zuckerberg dans le film.
Qui est une féministe.
Qui est une féministe, qui est la seule dans sa famille qui est pas dans le monde technologique et qui un peu par accident a remarqué cette amplification de la misogynie. Et ce qu'elle nous dit, c'est que les médias sociaux ont amené la misogynie à des points de violence inégalés. Donc, c'est comme un virus qui se répand. Et on dit on est chanceux au Québec parce qu'on n'a pas cette mentalité-là, mais ça se répand. Il y en a des YouTubers qui commencent à avoir une parole misogyne et qui commencent à avoir des followers. Donc, voilà, c'est un phénomène qui se répand malheureusement.
Et c'est aussi, si je peux me permettre, on le voit dans le film, comment les idéologies voyagent et comment donc des propos qui étaient perçus comme inacceptables ou qu'on pensait qu'ils étaient marginaux finalement, deviennent finalement normalisés et deviennent plus populaires que jamais. Pourquoi on a fait un film ancré, si on veut, dans quatre pays, l'Italie, les États-Unis, le Canada, c'est qu'on voulait faire, on voulait démontrer justement ce caractère international de la haine et comment, comme tu le dis, Guylaine, le virus se répand à une vitesse grand V. Que Rouge V dise c'est correct, il faudrait légaliser le viol dans les lieux privés, c'est inacceptable. Mais c'est une parole qui est en recrudescence et c'est ce qu'on voit aussi d'ailleurs dans le film.
Je regardais ce matin les chiffres. Là. Campagne électorale, il y a 12 personnes qui ont été arrêtées pour des propos contre des élus, contre des candidats. Depuis le début de la campagne électorale, là, ça fait 2 semaines que ça dure, puis on a déjà 12 personnes d'arrêter. Est-ce que dans tous les pays, il est difficile de porter plainte contre ces individus quand on parle vraiment carrément de menaces, là?
Ah, bien sûr. Dans le film, on suit l'ex-représentante démocrate Kaya Morris, qui est une
au Vermont.
Ouais, au Vermont. En plus, ben, c'est une femme noire, donc elle vit du racisme, du sexisme. Elle a vécu une histoire d'horreur qu'on relate dans le film. Le film devient pratiquement un thriller, d'ailleurs. Et elle n'a pas été protégée par les institutions. Non. Guylaine, oui. Tu peux peut-être...
En fait, vous savez, la sacro-sainte liberté d'expression aux États-Unis permet à des gens d'avoir même des propos racistes. Alors, ces propos haineux-là, je veux dire, ils sont comme protégés par la Constitution américaine. C'est une question d'interprétation, comme vous le savez. Mmh. Alors, cette femme qui est une élue a dû quitter ses fonctions d'élue pour protéger sa famille. Donc, il y a un enjeu démocratique important ici. J'ai enseigné à l'UQAM l'année dernière et il y avait des jeunes femmes qui me disaient, moi j'aurais bien aimé aller en politique, mais je sais que je vais être cyberharcelée. Ça vient avec le territoire aujourd'hui. Alors ça, c'est un enjeu extrêmement important. Il va falloir trouver des solutions.
C'est parce que ça devient comme une façon, c'est pas un individu, mais c'est un courant,
oui,
d'attaquer la démocratie puis les institutions. S'il y a personne qui va aller, puis je connais pas grand monde qui a eu le goût de subir ça non plus, là,
oui,
d'aller en politique pour se faire ramasser comme ça.
Mais exactement. Mais il y a quand même un tournant auquel on assiste ces jours-ci, parce que ça fait 10 ans qu'on s'intéresse au sujet pratiquement. Là, j'ai jamais vu ça. Une prise de conscience comme ça, en pleine campagne électorale. Et c'est aussi dû au fait qu'avec la pandémie, les violences sont en recrudescence en ligne. Mais pour les femmes, c'est encore pire. Ça, faut le conscientiser. Quand tu disais, Paul, que les attaques étaient différentes, c'est clair, on s'attaque beaucoup à la sexualité et c'est toujours vouloir faire taire les femmes. Et on réalise finalement que les droits des femmes sont menacés, qu'on assiste à un recul historique là, qui s'inscrit dans un contexte politique marquant. Aux États-Unis, avec Roe versus Wade, ce qui se passe, c'est hallucinant. Mais moi, je trouve que la réalité dépasse la fiction aujourd'hui. Puis, on peut dire même que dans certains cas, la vie des femmes devient un film d'horreur. Et c'est le cas.
Est-ce qu'on peut dire que des racistes ou des misogynes sont aujourd'hui dédouanés sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire que ce qu'ils pensaient à huis clos, là, entre eux, ou partageaient, oui, bon, en petits groupes, ont maintenant une tribune planétaire pour exprimer ce qu'ils pensent.
Voilà. Non seulement ils sont dédouanés, mais ils sont encouragés. Ils deviennent eux-mêmes des leaders charismatiques, en quelque sorte. Puis ils répandent leur fiel. Et aussi, ils ne sont pas punis. Alors, voilà. Je pense qu'il faut encadrer tout ça. Dans nos sociétés civiles, on a créé des lois. Les gens peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Je pense qu'il faut faire la même chose avec Internet.
Oui.
Je veux dire, et les plateformes de réseaux sociaux.
Oui.
Puis, Voilà.
Mais c'est ça, il y a eu un tournant aussi avec Donald Trump. Quand on a des élus qui sont, je veux dire, le président des États-Unis commet lui-même des actes vraiment fâcheux. Alors là, il y a un tournant et c'est comme si on acceptait, c'est comme si on avait abdiqué. Le web, en ce moment, c'est un état de nature, c'est le far web, c'est incivil. Jamais on accepterait de telles discussions dans la vie, dans la sphère publique. Et moi, ce que je trouve absolument inquiétant, c'est que c'est finalement le débat qui est effrité. Et quand tu disais, Guylaine, que c'est un enjeu démocratique, que j'aimerais le redire, parce que ce n'est pas normal que des jeunes femmes ne veuillent pas faire de la politique parce qu'ils voient des femmes se faire attaquer dans l'espace public de façon odieuse, injurieuse. Et moi, ça m'inquiète pour l'avenir.
Merci à toutes les deux de votre visite.
Alors,
ce matin.
On invite les gens à venir le voir, oui, au cinéma parce que c'est une expérience cinématographique aussi. On a voulu faire, il y a une esthétique de film d'horreur. Les gens, parce qu'on a eu la première hier, et les gens sortent du film en me disant, j'ai l'impression de savoir qu'est-ce que c'est d'être cyberharcelé. Alors, venez vivre l'expérience en salle.
Puis, un petit conseil, allez-y le premier week-end.
Oui, merci. Oui,
c'est important.
C'est
important parce que les films peuvent rouler en salle. Donc, oui, ça sort demain partout au Québec. Je vous salue, salope. La misogynie au temps du numérique.
C'est 23.